Bonjour à tous et à tous. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Yael Ifra. Yael Ifra, qui est connu sur Radio Shalom, qui intervient souvent. Yael est économiste, journaliste indépendante, enfin, elle a beaucoup d'activités. Et je l'interview aujourd'hui à propos d'une nouvelle affaire qui fait la une de la presse israélienne depuis vendredi soir dernier, les fuites qui, semble-t-il, touchent à la sécurité de l'État. Alors, bonjour Yael.
Bonjour.
C'est une affaire un peu compliquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça recouvre?
Oui, c'est une affaire qui est extrêmement embrouillée, d'autant plus que il lui a été appliqué une censure totale, une interdiction de publier tous les détails de l'affaire par le juge en charge du dossier au tribunal de Rishon LeZion, donc une ville proche de Tel Aviv. Donc on en a su très très peu, et ce n'est qu'à travers des allusions extrêmement lourdes qui nous ont été transmises par la presse, et petit à petit des requêtes qui ont été faites auprès du tribunal de libérer quelques détails de l'affaire, qu'on a pu en savoir plus. Et donc cette affaire a été surnommée de façon un peu énigmatique, l'affaire sécuritaire grave, et on l'appelle toujours comme ça aujourd'hui, elle n'a pas d'autre nom. Je vais expliquer un petit peu de quoi il s'agit et ce qu'on sait surtout au jour d'aujourd'hui. Alors ce qu'on sait, c'est que la semaine dernière, le Shin Bet, donc le service de la sécurité intérieure, a arrêté 4 personnes et une nouvelle personne hier, pour soupçon d'atteinte à la sécurité de l'État, donc un chef d'inculpation extrêmement lourd, et de perturbation, d'empêchement d'atteindre les objectifs de la guerre, plus spécifiquement le retour des otages. Donc c'est un chef d'accusation, et en tout cas une accusation extrêmement grave. Et de quoi s'agit-il exactement? On en a su un peu plus, puisqu'on a hier publié le nom du principal suspect, donc qui s'appelle Eli Feldstein. Donc Eli Feldstein est un des porte-parole du Premier ministre Benjamin Netanyahou, et c'est comme ça qu'on découvre que cette affaire se passe en grande partie au cabinet du Premier ministre d'Israël, d'où évidemment la gravité de l'affaire, puisque non seulement le chef d'inculpation est lourd, mais la personne qui en est accusée travaille au plus près du Premier ministre. Alors, expliquons un petit peu de quoi il s'agit. Eli Feldstein est donc accusé d'avoir récupéré auprès d'un complice ou volé lui-même, on ne sait pas très bien encore aujourd'hui, un document classé secret défense ultra confidentiel émanant du Hamas, ayant été écrit par un officier du renseignement militaire du Hamas, et qui explique la stratégie que, selon cet officier, le Hamas devrait adopter face à Israël pour gagner la guerre, et en particulier des objectifs de dissension interne à l'intérieur donc de la société israélienne, d'essayer d'accuser encore d'accentuer les fractures sociales, de faire pression sur le ministre de la Défense, de faire pression sur les familles d'otages, une stratégie assez diabolique évidemment, qui a été présentée, et c'est tout le problème, par un média étranger auquel ce document aurait été transmis par ce même Eli Feldstein, comme un document qui aurait été trouvé dans un tunnel du Hamas et écrit, ou tout au moins approuvé, par Yahya Sinwar, le chef du Hamas, qui a donc été éliminé par Israël le mois dernier. Donc ça, c'est un premier élément. Mais il faut comprendre que cet article, donc, qui a été fuité auprès du Bild, donc un hebdomadaire allemand extrêmement connu, un peu l'équivalent du Paris Match français, a été présenté par le Bild donc comme terrifiant. Voici la stratégie de Sinwar pour essayer de faire échouer Israël dans la guerre, d'une part. Mais il a été repris par le Premier ministre pour s'en servir en quelque sorte de preuve que le Hamas voulait faire échouer la stratégie d'Israël. Et donc, dans un premier temps, la population israélienne n'a rien compris. Tout ça s'est passé au mois de septembre. Les documents ont été volés apparemment avant. Ce sont des documents qui ont été obtenus par Israël, pas du tout dans un tunnel, mais par une source du Hamas, donc quelqu'un apparemment qui est dans la bande de Gaza. Donc évidemment, ça met gravement en danger cette source, que l'on comprenne qu'Israël est en possession de ce document. Alors ça, c'est une première couche. Hier, j'essaye en même temps de vous dire, parce qu'il y a sans cesse des nouvelles révélations, hier, on a appris que les complices de ce fameux Elie Feldstein étaient donc des réservistes qui travaillaient dans une unité qui s'appelle donc l'unité 8200, dans un département de cette unité, tenez-vous bien, qui était chargé de veiller à la sécurité de l'information et d'éviter les fuites. C'est quand même assez savoureux. Et que c'est eux qui auraient transmis ce fameux document à Elie Feldstein pour qu'il le fasse fuiter. Alors ça, c'est un premier élément de cette campagne qui a été un petit peu orchestrée. Et pourquoi elle a été orchestrée? Parce que cette fuite du Bild n'est qu'une partie de toute une série de messages qui ont été envoyés à destination des citoyens d'Israël. Et là, on touche à une deuxième infraction que j'expliquerai après. Et pour ça, il faut un peu revenir en arrière. Si vous le voulez bien, David, je vais refaire un peu d'ordre.
OK.
Alors, pour faire un peu d'ordre, il faut expliquer que l'année dernière, au mois de mai, le président Biden a donc présenté son plan pour rendre les otages israéliens. Vous vous souvenez, c'est le plan Biden. Ce plan Biden est présenté parce que les négociations n'avancent pas entre novembre et mai, qu'il y a toutes sortes d'éléments qu'à chaque fois qu'on avance, bizarrement, elles capotent ou tout d'un coup, quelqu'un les fait échouer. Des fuites souvent orchestrées qui viennent dire que ce n'est pas la peine de penser qu'on va rendre qui que ce soit, ou que tel et tel prisonnier ne seront pas rendus, ou que Israël n'a pas l'intention de respecter le moindre cessez-le-feu. Et du côté du Hamas, des durcissements d'opinion, des exigences qui surgissent. Donc, en deux mots, des négociations complètement enlisées. Devant cette situation, la Maison-Blanche décide de prendre les choses en main et le président Biden, évidemment en coordination avec Israël, entendons-nous bien, présente au début mai un plan qui prévoit donc de libérer les otages en trois fois. D'une part, d'abord une première libération humanitaire avec les femmes, les enfants, les prisonniers, les blessés. Et les personnes âgées, il n'y a plus d'enfants, les femmes, les personnes âgées et les blessés. Ensuite, les hommes et ensuite les corps des personnes des otages qui ont été tués ou qui sont morts au cours de leur captivité, en échange du retrait d'Israël, de toutes sortes d'endroits, peut-être pas du couloir de sécurité qu'on appelle Netzarim, et puis avec toutes sortes de phases, de cessez-le-feu. Bon, je passe dessus parce que ça fait très longtemps et tout le monde a oublié. Voilà. Mais ce plan est immédiatement accepté par le Premier ministre israélien, par Benjamin Netanyahou. Il est validé par un sommet qui a lieu à Paris, donc on s'en souvient. Donc on l'appelle ce document le document de Paris, jusqu'à aujourd'hui. Ce document sert de base aux négociations et on est censé, à partir de ce document, avancer pour aller vers une première libération des otages. Les négociations avancent plutôt bien. Et au mois de juillet, le Hamas renvoie sa réaction, puisque maintenant on a compris, suite à l'élimination de Yahya Sinwar, que c'était très très long, puisqu'il était dans des tunnels et qu'il lui fallait toujours très longtemps pour pouvoir répondre. Mais en tout cas, le Hamas introduit des changements, demande d'autres conditions. Mais en tout cas, on est dans une situation où on peut négocier et on est censé avancer. Et de fait, on est très 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 près d'avancer. Voilà. Au mois de juillet, donc ce document du Hamas est donné, et au mois d'août, c'est là que va commencer notre campagne d'intoxication, dont on comprend finalement qu'elle est destinée à faire échouer les négociations, à faire échouer le retour des otages pour servir les intérêts politiques du Premier ministre. Et donc, le 9 août est publié par Ronen Bergman, un journaliste du New York Times et du Yediot Ahronot, un document qui n'avait pas été rendu public, qu'on a appelé le document de clarification, probablement de la main du Premier ministre, ou en tout cas auquel il aurait été impliqué de façon très étroite, qui vient rajouter toutes sortes de clauses à l'intérieur du document dit de Paris, et en particulier y ajouter la présence obligatoire d'Israël sur l'axe Philadelphie. C'est ce qu'on appelle en anglais un no-go. On sait très bien que si cette clause est rajoutée, le Hamas va refuser l'accord. Et tout à coup, l'axe Philadelphie, que personne ne connaissait, surgit dans nos vies. On est donc au mois d'août. Pendant tout un temps, il ne se passe pas grand-chose, d'autant plus que le document n'a pas été révélé. Il a été révélé donc fin août, début septembre. Et le 31 août se passe un événement extrêmement grave et qui va changer toute la donne et précipiter les choses et nous amener à notre affaire, c'est le meurtre des 6 otages par le Hamas, dont on retrouve donc les corps début septembre.
Il faut un peu accélérer parce qu'on n'a que quelques minutes pour achever.
Ils sont donc assassinés par le Hamas. Et à partir de là, la pression populaire grandit et des centaines de milliers de personnes descendent dans les rues. J'ai presque terminé en fait, hein, ça va très très vite.
Oui.
Descendent dans les rues et réclament la libération des otages immédiate. Et là, on comprend que pour Benjamin Netanyahou, le moment est venu de, à tout prix, pouvoir faire capoter cette exigence publique, sachant que l'émotion est très très grande. Et donc, en une semaine, la première semaine de septembre, il va donner 2 conférences de presse et il va y avoir 2 parutions dans la presse cette même semaine. Les 2 conférences de presse, une en hébreu, l'autre en anglais avec carte, sont destinées à montrer qu'Israël doit absolument rester dans le couloir de Philadelphie, ce qui va faire capoter l'accord et tout le monde le comprend. En même temps, la publication dans le Bild du fameux document secret du Hamas qui viendrait abonder cette thèse et qui, en même temps, est reprise par Benjamin Netanyahou, et en même temps, une information fabriquée envoyée au Jewish Chronicle anglais selon laquelle Yahya Sinwar voudrait faire échapper les otages par l'Iran et vers l'Iran et vers le Yémen en passant par, je vous le donne en mille, l'axe Philadelphie. Information reprise également par la femme du Premier ministre. Le piège se referme. Cette opération réussit. Tout le monde est persuadé que l'axe Philadelphie, c'est très important. Le Hamas, évidemment, refuse l'accord en disant qu'il n'en est pas question. Et les informations et donc les négociations capotent. Tout cela, l'armée l'a compris en temps réel quand elle a vu ce document paraître dans le Bild. Les services du renseignement de l'armée ont compris que ce document avait été volé. Il n'y avait aucun moyen qu'il ait été donné. Il n'était pas transmis à personne. Ils ont ouvert une enquête qu'ils ont menée pendant les 2 derniers mois secrètement avec donc le Shin Bet et qui a mené à l'arrestation de Elie Feldstein. Il est très important d'expliquer que quand le Shabak et l'armée ont ouvert cette enquête, ils ne savaient pas qui était à l'origine de ce vol et ils ne savaient pas du tout où allaient les mener leur enquête. Eux-mêmes, d'après ce qu'on comprend, ont été stupéfaits de découvrir que c'était quelqu'un qui travaille au quotidien, au plus proche du Premier ministre, qui a récupéré, on ne sait pas très bien comment, mais en tout cas un document dont il savait qu'il était volé et qu'il a transmis à un média étranger. C'est l'essence de l'affaire et c'est pourquoi, en fait, on dit que cette campagne qui a été montée a été menée contre les citoyens israéliens, ce qui est complètement interdit par la loi. Et c'est pour ça que les chefs d'accusation sont d'atteinte à la sécurité de l'État.
Ok, c'est effectivement très compliqué. Est-ce qu'on peut une seconde imaginer que Elie Feldstein ait fait cela sans que le Premier ministre ait été au courant ?
Alors, le Premier ministre lui-même, on ne sait pas, c'est impossible pour le moment de le savoir. Mais il est évident qu'Elie Feldstein n'a pas travaillé dans le vide, qu'il n'a pas, de son point de vue, décidé d'aller récupérer un document classé top secret et d'aller le passer au Bild sans avoir aucune autorisation. On peut imaginer qu'à minima, le directeur de cabinet de Benjamin Netanyahou, Tsachi Braverman, ou le directeur du ministère du Premier ministre, Yossi Sheli, aurait donné cette instruction. Il y a aussi quelque chose qui est important de dire sur Elie Feldstein, parce que c'est un peu court là pour expliquer qui il est, mais il faut comprendre que Elie Feldstein assistait à des réunions classées secret défense, était en permanence avec le Premier ministre, alors même qu'il avait échoué 2 fois à obtenir son habilitation sécurité, pardon, et qu'il n'avait aucun droit d'assister à ces fameuses réunions ou de l'accompagner dans des bases classées secret défense. Donc on voit très bien qu'il s'agit déjà de quelqu'un qui joue avec les limites, qui vivait dans l'interdit au quotidien, et on imagine bien que cela, on le savait au cabinet du Premier ministre. Donc si on a choisi de l'y laisser, de l'y faire travailler, c'est un peu l'homme de paille qui a fait ce qu'on appelle le sale boulot.
C'est pas la première fois. Ok, bon, écoutez, je vous remercie de cet éclaircissement. Ça a l'air d'effectivement d'être une affaire qui va se poursuivre parce que l'enquête est en cours. On suppose que si Netanyahou a voulu faire éclater l'accord qu'il avait accepté précédemment, l'accord de Biden, on va dire, c'est que derrière cela, il y avait une intention d'arrêter cette négociation compte tenu des pressions qu'il avait au sein de son cabinet pour qu'elle n'aboutisse pas, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il aurait pris une telle décision.
Absolument, ce n'est pas que Netanyahou ne veut pas que les otages reviennent, on ne va quand même pas imaginer ça, mais par contre, il a deux ministres dans son gouvernement, Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, sans lesquels la coalition ne tient pas, et qui, à chaque fois qu'il y a la moindre possibilité ou que se profile le moindre opportunité d'aller vers un accord qui impliquerait la libération de prisonniers palestiniens dont certains auraient du sang sur les mains, lui font savoir qu'ils quitteront le gouvernement et qu'ils le feront tomber. Or, Benjamin Netanyahou est empêtré dans quelque chose de très compliqué. Dès qu'il n'a plus de gouvernement et qu'il va aux élections, il n'est pas sûr qu'il soit réélu. Son procès doit reprendre. Il a des chefs d'accusation très très lourds contre lui de corruption et donc il est cardinal qu'il se maintienne au pouvoir à tout prix. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à une situation où en Israël, depuis plus d'un an, des civils, des jeunes filles, des personnes âgées qui ont été enlevées sont détenues dans des conditions épouvantables et que le Premier ministre, on ne peut pas l'affirmer, mais on peut le dire en tout cas, fait régulièrement échouer, capoter ou torpille les possibilités d'arriver à un accord. Ça a été attesté hein, par des nombreuses personnes, aussi bien dans l'équipe des négociateurs que des sources militaires. Et c'est aussi l'origine de son affrontement très violent avec son ministre de la Défense qu'il a déjà tenté de licencier deux fois.
Très bien. Bon, écoutez, on va en rester là pour l'instant. Merci Yael pour toutes vos explications. On reparlera certainement de cette affaire prochainement en fonction des évolutions.
Oui, elle est loin d'être terminée, on n'en est qu'au début, hein.
Okay. On en reviendra avec vous. Merci, à bientôt, dans 2 semaines pour notre prochaine émission sur Chronique pour la paix sur Radio Shalom.
Merci David.
Merci.